414.
On va poser une question, si la Tchouaï fait partie, sinon des 613, n'est-ce pas?
Non, non, c'est 414.
414.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Ça va me revenir. Enfin, ça ressemble. Il manque de sang, oui. Mais ça va bien. Non, Elgina, c'est bon, il y a Rapti.
Alors, si vous. Bon, alors, évidemment, il est un peu tard déjà, je vois qu'il est 8 heures passées. Enfin, si on voulait évidemment maintenant voir par rapport au problème.
C'est passé, il est 8h11.
Oui. Par rapport aux Sadducéens et aux Pharisiens, moi, je me pose une question par rapport à. C'est la question que j'avais essayé de poser à M. Ancel. En réalité, lorsqu'on dit que les Sadducéens occupaient des fonctions importantes, au temple, etc., je me demande si ces Sadducéens, du fait justement qu'ils voulaient profiter de Olamazé, qu'ils voulaient profiter de ce monde-ci, et qu'ils n'étaient pas impliqués, qu'ils ne se tuaient pas eux-mêmes dans l'accomplissement de la loi orale, il n'y a pas un lien entre ces deux-là. C'est-à-dire le fait, on ne peut devenir pharisien qu'en supprimant l'équation personnelle, qu'en se tuant soi-même, qu'en refusant la jouissance de ce monde. Si l'on ne veut pas aller si loin, et c'est les Sadducéens qui occupaient des positions importantes, qui voulaient jouir de ce monde-ci. Enfin, je me demande s'il n'y a pas là un lien entre l'existence du sadducéisme et cela. Et en tout cas, on ne peut pas prendre prétexte du fait qu'il y aurait eu, de la part d'Israël, un refus d'accepter la Torah orale. Ça, on l'a évacué. Nous ne pouvons pas dire, nous avons le droit d'aider les Sadducéens. Jamais Israël n'a refusé de prendre la Torah orale. Et de toute façon, même ceux qui diraient que ça vient de force, depuis Mordechai, depuis que les Juifs ont dit « Nous sommes bien les successeurs des Hébreux et nous prenons la Torah écrite orale », eh bien, se dire sadducéen, c'est être hérétique.
À la Faculté de théologie protestante, et je voudrais, pour l'introduire brièvement, vous raconter un souvenir d'une de nos premières rencontres, sans doute la première d'ailleurs. Nous étions au Centre des intellectuels catholiques, pour une semaine d'études sur la question « Qui dis-tu que je suis ?», qui est une citation des Évangiles, et qui était l'interpellation sur la définition de l'identité du Christ. Et lorsque j'ai commencé ma propre communication, j'ai eu l'outrecuidance, si j'ose dire, de dire à peu près ceci. Et j'étais donc un juif, invité en tant que rabbin, par une assemblée de chrétiens, et pour donner mon point de vue sur cette question, qui dis-tu que je suis, la question s'adressant à moi juif. Et alors je dis à peu près ceci, que j'étais très heureux de me trouver dans cette compagnie, je parlais donc, ça se passait en 68, 67, et que normalement c'était donc à l'Assemblée à me souhaiter la bienvenue, puisque je venais en milieu chrétien, mais qu'en réalité nous allions parler de choses qui nous concernaient depuis très très longtemps, et que c'était donc moi qui souhaitais la bienvenue aux chrétiens chez eux. Bien, je crois que je pourrais d'une certaine manière, monsieur le pasteur, vous dire un peu la même chose. Vous êtes ici chez vous, et je vous souhaite la bienvenue.
Merci beaucoup.
Alors, je vous rappelle le titre de la causerie que vous m'avez demandé, « Le pharisianisme, acuité de la conscience » ou maladie du légalisme, c'est-à-dire au fond, si l'on veut, exigence ou scrupule. Et je dois dire que je ressens profondément le scrupule d'abord, parce que je ne suis pas du tout un spécialiste tellement de cette question, et c'est essentiellement par une sorte au fond de liberté de m'exposer à la fois à vos compétences et également à vos débats que je suis venu pour essayer d'aborder ce thème. Et je rappelle dès le début d'ailleurs que au téléphone j'avais dit imprudemment ou maladroitement, vous voulez que je parle sur le pharisaïsme, et on m'a bien précisé qu'il fallait que je parle sur le pharisianisme, c'est-à-dire que je devais ne pas préjuger d'un mot qui aurait une coloration négative et prendre un mot qui soit un mot offert à notre réflexion commune. Et au fond, je pense que tout débat doit être d'une certaine manière à la fois échange et à la fois procès. Échange, c'est-à-dire possibilité de recevoir l'un de l'autre, et procès, c'est-à-dire mise en contestation de l'autre. et je m'attends très librement et salutairement à ce que vous me mettiez en procès dans ce que je vais essayer de dire à propos, effectivement, de la compréhension du pharisianisme. Je voudrais dès le début dire que je m'inspire assez d'un petit fascicule qui vient de paraître et qui s'intitule « Les pharisiens » et qui est d'ailleurs, en grande partie, en tout cas dans sa première conférence, la reprise d'une partie du livre de Ricoeur sur « Finitude et culpabilité » où il avait consacré tout un chapitre à l'étude justement du mouvement des pharisiens en disant que c'était peut-être pour la conscience biblique l'équivalent, mais il faudra longuement en discuter, de ce qu'avait été le stoïcisme et les stoïciens pour la conscience grecque. Alors, voilà comment je compte un peu procéder en m'aventurant sur ce thème. Je voudrais parler de trois procès successifs, puisque c'est le mot « procès » que j'ai employé. Je voudrais rappeler à mes yeux que le mot « procès » est un mot bénéfique entre les hommes, comme il me semble d'ailleurs que c'est un mot tout à fait caractéristique et assez étonnant de ce que peut être justement l'écriture biblique. Il me semble que dans une mentalité antique, il n'y a pas de procès des hommes contre le destin, il y a un consentement à la nécessité, et un consentement d'ailleurs qui peut être, dans ce consentement peut se manifester la profondeur et la sagesse de l'homme, mais il n'y a pas mise en procès du divin. Je dirais que dans l'athéisme moderne, il ne peut pas non plus y avoir de mise en procès puisqu'il y a inexistence de celui que l'on pourrait questionner, mais si l'on pense au livre de Job et à tant d'expressions d'ailleurs des prophètes, on voit que la mise en procès de Dieu ou la mise en procès de l'homme par Dieu, c'est sans doute une des modalités de cette rencontre. Et puisque mes trois parties s'intituleront « procès », ne prenez pas ce mot en négatif, mais prenez-le plutôt en offre de discussion tout à l'heure. Alors tout d'abord, le procès historique. Alors il est sûr, je parle ici à la fois comme... comme pasteur protestant, comme lecteur de l'écriture biblique, et en partie, certainement, c'est ce que vous m'avez demandé, un peu dans le contexte, dans la façon dont le Nouveau Testament aborde les pharisiens. Vous savez que c'est surtout l'évangile de Matthieu, d'ailleurs, qui est fortement polémique par rapport aux pharisiens, davantage que l'évangile de Jean ou de Luc ou de Marc. Et je voudrais rappeler un peu au point de départ ce côté polémique et négatif que prend le mot pharisien, surtout dans la version mathéenne. Il faudra d'ailleurs discuter de savoir si c'est déjà contemporain des tensions progressives qui se sont effectuées entre, disons, le judaïsme et le christianisme naissant. Alors, il me semble que si j'avais à caractériser les connotations négatives, j'ai là apporté mon Nouveau Testament à côté, tout à l'heure on pourra regarder les textes si vous voulez, les connotations négatives, je les ai vues des quatre manières suivantes. Premièrement, les pharisiens apparaissent très souvent dans les textes évangéliques comme ceux qui ont multiplié les lois. Par exemple, il y a une citation, je crois, qui est empruntée ici à Baron et qui se félicite. Baron parle des 613 lois du rabbinisme tardif et cite le texte d'un rabbin qui se dit heureux d'appartenir à un peuple qui a 613 lois, alors que ceux qui se réclament seulement de l'alliance de Moïse ont seulement 10 commandements. Donc, si vous voulez...
De Noé.
De Noé, privé de Moïse ici.
Mais c'est une faute
d'impression. Si vous voulez, premier sentiment, le sentiment qu'il y a une sorte de prolifération de casuistique. La casuistique, je ne la prends pas d'ailleurs dans un sens premièrement négatif. La casuistique, c'est la façon dont nous appliquons la décision morale dans chaque cas. Et le mot casuistique, à mes yeux, n'est pas un mot négatif, c'est faire en sorte qu'un commandement moral ne demeure pas dans sa généralité, mais qu'il prenne sa concrétion. Que ce soit dans un cas que le meilleur soit finalement indiqué, suivi, observé. Mais quand il y a une multiplication de commandements, et c'est tout le problème peut-être derrière les casuistiques, on a le sentiment que cette multiplication prévoit trop de cas et n'en prévoit pas assez. C'est l'éternel problème de la multiplication, si vous voulez, des commandements, en ce sens qu'en prévoir trop, c'est noyer la conscience de l'homme dans l'anxiété de ce qu'elle n'observe pas. Et d'une certaine manière, c'est remplacer, on pourrait dire, la simplicité de la totalité du cœur par l'anxiété de la multiplicité des interdits. Et en second lieu, elle n'en prévoit pas assez parce qu'il est certain que le propre des cas est toujours d'être tout à fait nouveau. Vous savez combien, mais là je sors de mon domaine, vous savez combien dans le domaine éthique, nous avons très souvent des difficultés à savoir qu'aurait dit la Bible sur un tel cas. Nous avons eu par exemple comme protestants un grand débat récemment en France avec le catholicisme pour savoir qu'est-ce qu'aurait dit la Bible à propos du vote de la loi Veil. Qu'est-ce qu'il faut dire dans tel et tel cas? Donc, en un certain sens, la multiplication des commandements ou des cas peut représenter non pas un chemin mais un fardeau, peut représenter non pas la possibilité de démonter l'existence, mais le risque de la ligoter. Et peut-être que dans les reproches faits aux pharisiens, il y a en premier lieu, surtout je l'ai dit dans l'évangile de Matthieu, le sentiment qu'en multipliant les commandements, ils détournent, et là je viendrai alors non pas aux 10, mais aux 2 essentiels, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc première question, un peu d'ailleurs dans l'ordre, vous vous rappelez de ce qui est dit à propos du prologue ou de la préface ou du commentaire qui introduit la prière de Jésus appelée le Notre Père, dans lequel Jésus dit « Ne multipliez pas les paroles comme font les païens qui croient qu'en multipliant les paroles, ils obtiendront l'attention ou la faveur de Dieu, mais dites » une sorte de sobriété, pas d'amaigrissement, mais une sorte de concentration de ce que peut être au fond la loi et non pas une multiplication de ce que doivent être les préceptes. Première donc interrogation. Seconde interrogation, j'emploierai un mot, j'ai dit que je me mettais en procès, donc ne prenez pas en mauvaise part ce que je vais dire. Après le sentiment du fardeau, éventuellement le sentiment de l'astuce. C'est-à-dire que, je rappelle un verset, je n'ai pas retrouvé exactement les textes, vous savez quand Jésus dit aux pharisiens, il vous est dit de soutenir vos parents, de donner à vos parents ou d'être généreux par rapport à votre prochain. Vous déclarez que telle chose est corban, c'est-à-dire consacrée, et par conséquent, vous ne pouvez plus la donner. Donc, une sorte d'astuce par laquelle on se sert d'une multiplication fond de précautions ou d'indications pour éviter ce qui serait demandé. L'astuce étant sans doute pour la conscience de l'homme la possibilité de paraître bonne aux yeux des autres et de paraître surtout protégée aux yeux de soi-même. C'est pas le problème, nous sommes tous astucieux, astucieux pouvant être l'intelligence, et il est demandé si possible d'être intelligent, mais l'astucieux pouvant être la ruse, et il est demandé de ne pas être rusé. Donc, d'une certaine manière, risque d'astuce ou risque de ruse par lesquels ces 613 commandements étant peut-être trop difficiles à observer, on s'en sert de telle manière que finalement, ce qui compte au fond est d'une certaine manière non atteint par une sorte d'amoncellement de règles par les à travers desquelles on passe. Troisième reproche, classique, mais je le mets en troisième lieu et je les énonce au début, et après je vous montrerai que les choses sont très souvent autrement. Troisième reproche, c'est vous chargez les épaules des autres de fardeaux que vous ne portez pas vous-même. C'est la fameuse phrase qu'on entend très souvent dans les évangiles sur les pharisiens, ou encore, vous courez la terre entière pour faire des prosélytes, et une fois que vous avez fait un prosélyte, vous l'empêchez d'entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, vous mettez une sorte au fond de poids très fort de ce qui devrait être fait, de telle manière que les gens viennent vers vous pour rencontrer l'exigence, et tout à coup, ils rencontrent chez vous la barrière. Et en un certain sens, au fond, c'est peut-être ça que veut dire hypocrite, pas dans son sens de tartuffe, mais dans son sens de mettre sous le jugement, hypocrinein. Vous mettez sous le jugement les hommes qui croient venir vers vous pour rencontrer la libération. C'est-à-dire, ils viennent vers vous pour rencontrer le pardon de leurs péchés, et vous rencontrant, ils découvrent l'amoncellement de vos fautes. Et en un sens, il y a une sorte, au fond, de charge d'autrui qui fait que, à la limite, au fond, d'ailleurs, c'est le risque, je pense, de toute religion, à la limite, nous nous prétendons, nous nous présentons comme ceux qui viennent annoncer, et non seulement annoncer, mais vivre la libération, la grâce, l'exode, et finalement, au lieu que nous procurions un exode, nous procurerons le fameux mot que j'aime bien citer ce soir parce que il est à la fois d'origine biblique et il a joué un tel rôle dans l'histoire du protestantisme. Vous savez qu'un des plus grands traités de Luther a été le fameux traité qu'on appelle la captivité babylonienne. Et la captivité babylonienne ne concerne en rien le judaïsme. La captivité babylonienne, c'est l'état de la chrétienté quand les commandements d'église sont devenus tels que ce soit les sacrements permis, non permis, les commandements observés, etc., que, au lieu d'être une bonne nouvelle évangélique, la pratique de la chrétienté est devenue une captivité angoissante sur les consciences d'hommes. Et enfin, quatrième risque, si je synthétise très rapidement ce que il me semble entendre dans les évangiles, c'est ce que j'appellerais le risque de la vertu. Je rappelle la belle phrase de Kierkegaard, où Kierkegaard dit « Le contraire du péché n'est pas la vertu, mais la foi. » Et quel est le risque de la vertu ? Le risque de la vertu, c'est de prétendre plus qu'elle ne peut, ou surtout d'être fermé à ce qui procure, à certains égards, je vais être un peu paradoxal, à ce qui procure à la fois la miséricorde et la compassion, c'est-à-dire l'expérience du péché. C'est-à-dire, le vertueux, à la limite, pourrait être quelqu'un qui devient un raide par rapport aux autres, qui représente Dieu en forme de roc ou de loi incontournable, j'emploie exprès des expressions de Bernard-Henri Lévy, mais qui ne présente pas Dieu comme étant le miséricordieux. Et en ce sens-là, le vertueux, c'est quelqu'un qui risque de dresser, je dirais, entre le pardon de Dieu et l'existence de l'homme, sa propre perfection comme une sorte, au fond, de falaise inaccessible. J'emploierai un grand mot théologique, mais on en discutera tout à l'heure. Il dresserait sa propre justice au travers de la justification du pécheur par Dieu. Il y a donc ces quatre connotations négatives, hein, l'amoncellement des observances, l'astuce pour éventuellement, je dirais, noyer le moucheron et avaler le chameau, pour reprendre l'expression aussi de l'évangile de Matthieu. En troisième lieu, le poids mis sur les autres, alors qu'aux yeux des autres, on présente une bonne nouvelle et que quand ils vous rencontrent, ils se découvrent au contraire en état de culpabilité et d'impossibilité. Et par-dessus tout, cette maladie de la vertu, qui peut prendre des formes de scrupulite ou qui peut prendre des formes de raideur, et qui en fait d'ailleurs remplace le jugement de Dieu par notre propre jugement, qui en général a l'habileté de nous justifier nous-mêmes et de condamner les autres. Donc, voilà les quatre connotations assez négatives, hein, par lesquelles il m'a semblé qu'il fallait que je commence cette réflexion commune. Ceci dit, toujours dans ce procès historique, il me semble, et ça va être paradoxal, et d'ailleurs je regrette beaucoup de ne pas avoir pu assister à la conférence de lundi soir, il me semble que, qu'est-ce que je vais employer comme expression ? Disons, les adversaires les plus intimes, ou disons les écouteurs les plus proches, ou disons les attentifs les plus inquiets de Jésus ont été les pharisiens. Et dans les évangiles, il est certain que le groupe des pharisiens, je vais très rapidement s'en faire étalage d'érudition que je n'ai point d'ailleurs, c'est les pharisiens qui se trouvent extrêmement souvent dans les discussions les plus profondes avec Jésus, davantage, me semble-t-il, quoi que l'on dise aujourd'hui sur les théologies politiques, davantage que les zélotes, car même si Judas Iscariote ou Simon viennent de milieux zélotes, comme l'a soutenu Kuhlmann, il est certain que la pratique de Jésus n'est pas une pratique de zélotisme violent, davantage que les Esséniens, même si Jean-Baptiste a été proche des Esséniens, vous savez combien entre Jésus et Jean-Baptiste il y a effectivement une divergence qui s'accentue au fur et à mesure du déroulement des évangiles, et beaucoup plus naturellement, mais là je ne sais pas comment les qualifier, que les Sadducéens, qui sont, me semble-t-il, dans les évangiles, les spectateurs à la fois intelligents et mondains, mais non pas les acteurs, enfin qui ne sont pas dans les grands débats. On a toujours le sentiment que les Sadducéens arriveront au dernier moment pour se rallier à une cause dont ils ont regardé le déroulement sans jamais entrer ni en tentation de croire, ni en refus de croire. Il n'y a pas eu de rapport profond, me semble-t-il, entre le milieu des Sadducéens et le milieu de Jésus. Alors je croirais beaucoup que, c'est là que je vais progressivement entrer dans ma partie théologique, je croirais profondément que entre Jésus et les pharisiens, il y a eu une très profonde, au fond, proximité, une très profonde proximité, qui se d'ailleurs doit se rencontrer, je pense, pour la raison très fondamentale, dont on pourra discuter aussi tout à l'heure, c'est qu'à mes yeux, Jésus n'est pas du tout quelqu'un qui a aboli la loi. La fameuse phrase que celui qui a dit qu'il faut supprimer un iota de la loi soit enfin, que je suis contre lui, enfin, je ne suis pas venu pour abolir un iota de la loi. Je crois que c'est une parole très profondément évangélique, et je rappelle non seulement que Jésus a été, chaque fois qu'un lépreux est guéri, il lui dit « va te présenter au prêtre et offre le sacrifice qui est offert pour la restitution du lépreux dans la communauté juive ». C'est-à-dire qu'il y a chez Jésus pas du tout une pratique ni provocatrice, ni de provocation, ni de transgression, ni de destruction, ni de dépassement. Mais je dirais beaucoup plus d'observance et d'accomplissement. Et en ce sens, il me semble qu'entre cette observance de la loi et cette recommandation d'observer la loi et ce que représente, je pense, la pratique et l'essence du pharisianisme, il y a dû y avoir une communauté très profonde. La question étant naturellement que cet observant de la loi, pourquoi faisait-il un certain nombre de choses qui sont contre la loi ? Donc, mais là c'est pas mon thème tellement de ce soir, donc d'une certaine manière, et c'est je pense d'ailleurs la raison sans doute majeure, est-ce qu'il se montre, non pas comme celui qui dit « si vous observez la loi, vous serez reconnu comme étant un juste devant Dieu », mais est-ce qu'il se montre comme celui qui croit pouvoir dire « je pardonne les péchés au nom de Dieu », c'est-à-dire c'est par le côté des pardons des péchés, certainement, que Jésus a été ressenti le plus comme étant un blasphémateur par les observants de la loi. Et donc, il y a là un problème très fondamental, et dans la mesure où peut-être les pharisiens et Jésus étaient profondément proches, je dirais, dans leurs exigences par rapport à la loi, de la même manière, sans doute, il a dû susciter en eux d'abord une inquiétude, ensuite une irritation, et sûrement une indignation, qui a été un des éléments certainement profonds de ce qu'a représenté le procès dans lequel il est entré. Mais ayant dit ceci, et je terminerai peut-être par là ma première partie historique, en tout cas au temps des évangiles, je rappelle qu'au fond, en tout cas à mes yeux, Jésus n'est proche ni loin d'aucun groupe particulier. Tel que je le vois, je ne le vois ni un membre au fond d'un activisme zélote, ni un membre d'un ascétisme essénien, ni un membre de la prudence ou de la sagesse, je ne sais quel est le mot qu'il faut employer, sadducéenne, ni un membre du zèle pharisien. Ni d'ailleurs un nombre non plus des amarettes, c'est-à-dire on dit très souvent aujourd'hui qu'au fond il est du côté de ceux qui sont rejetés ou exclus par le peuple, qui n'appartiennent pas aux quatre grands groupes, on pourrait dire, aux quatre grands courants de senteurs. Moi j'ai le sentiment qu'il a été, il me semble, ouvert à tous et à la longue, ou méconnu, ou rejeté, ou jugé, enfin je n'ai pas ici à prononcer le mot, chacun prononce le mot qu'il veut, mais finalement, non reconnu par tous. Et en un sens, je ne voudrais pas faire de Jésus, c'est là peut-être un débat que l'on pourrait avoir avec l'article d'Abbé Cassis ici sur Jésus était-il un pharisien, je ne suis pas sûr qu'il ait appartenu à un groupe particulier. Et en un certain sens, je vois son universalité dans sa non-appartenance à un groupe particulier et dans sa proximité avec tous les groupes. Le dernier point de vue historique, et après je passe à la partie plus théologique, et après à la partie morale, qui sera peut-être la partie où nous aurons le plus d'échanges. Il est certain qu'il faudrait dire quelques mots, mais là j'ai plus à m'instruire que je ne suis capable de le faire, il faudrait dire quelques mots sur ce qui s'est passé après. Ce phénomène tout de même extrêmement important, que tandis que vous développiez le Talmud, les chrétiens développaient la patristique. C'est pas, il faut toujours se dire, Ricoeur le dit très fortement, judaïsme et christianisme ne sont pas deux mouvements successifs, mais ont été deux mouvements parallèles. Et d'une certaine manière, est-ce qu'il y aurait, mais là, il faudrait voir longuement, est-ce qu'il y aurait une manière, voyez, d'interpréter, de commenter, d'actualiser, d'appliquer, qui serait d'un côté une manière patristique, et quand je dis patristique, je pourrais dire de manière générale, finalement, ce qu'a fait l'Église en chaque siècle, c'est-à-dire essayer de voir quelle est l'actualité, le sens que prend la parole, le témoignage des prophètes et des apôtres dans notre temps. Est-ce qu'il y aurait une autre manière talmudique qui serait très différente? C'est sans doute dans ces types de comparaisons que nous comprendrions le mieux comment, ayant des racines communes, nous avons une grande divergence parallèle et nous sommes maintenant à la recherche au fond de compréhensions signifiantes les uns pour les autres. En tout cas, ce qui est sûr, mais je rappelle deux ou trois choses que vous connaissez bien. C'est que, premièrement, il y a eu le fameux thème du temple. Je donne deux ou trois thèmes qui, pour vous, sont énigmatiques, mais qui peuvent être suggestifs pour tout à l'heure. Hein. Le temple, ces phrases très étranges de Jésus, hein. C'est mon corps qui sera le temple dorénavant. Bien que les premiers chrétiens aient toujours pratiqué la prière au temple, et que la rupture entre la première communauté et le temple de Jérusalem ait été une rupture progressive, mais n'ait pas du tout été une rupture immédiate. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qui est donc une sorte de remplacement. Ce mot, ce temple, le lieu du rendez-vous entre Dieu et l'homme, ait été d'abord le lieu où avait été déposée l'arche de l'Alliance et se trouvait être maintenant ce que les chrétiens croyaient appeler le corps ressuscité du Christ. Le second point, naturellement, c'est aussi est-ce qu'au fond, il y a eu à ce moment-là des solidarités différentes? Je crois que c'est très important de penser que la communauté judéo-chrétienne qui était à Jérusalem au moment des événements de 70 n'a sans doute pas combattu avec la population juive et n'a pas ressenti le destin de Jérusalem comme étant son propre destin. Or, il est évident que donc, quand il y a un cas de non-solidarité en cas de crise et de détresse, il ne peut y avoir qu'après des amertumes qui ont été très profondes. Je crois aussi qu'il faut mentionner que les milieux juifs ont ressenti ce qu'on appelait précédemment la secte chrétienne, comme étant finalement quelque chose d'autre qu'une secte juive, mais comme étant un mouvement divergent qui ne pouvait pas, par rapport à l'Empire romain, se présenter sous le couvert du monde juif, et qui a donc eu toute une série de séparations. Si bien que c'est pourquoi je mentionne tout cela, parce que l'évangile de Matthieu, dans sa rédaction, qui est l'évangile le plus anti-parisien, est contemporain des premières grandes tensions entre la constitution, entre le pharisaïsme juif et de l'autre côté les communautés d'abord palestiniennes et puis ensuite les communautés dans l'ensemble du bassin méditerranéen fondées sur Jésus-Christ. Donc ce premier point était à mes yeux pour signifier qu'historiquement, il y a eu des critiques, il y a eu des proximités, il y a eu des distanciations, mais qui est très important, et je suis reconnaissant que vous m'ayez invité à venir ce soir, qu'il y ait eu entre pharisiens, observants, zélés de la loi, et Jésus, on pourrait dire exhortateur, à observer, à radicaliser la loi, et non pas à l'abolir, qu'il y a dû y avoir une parenté très profonde, que nous occulterions si nous disions les pharisiens sont les ennemis de Jésus. Je crois qu'il y a un cheminement plus compliqué dont j'ai essayé de vous donner quelques éléments rapides. Alors la seconde question, c'est la grande question théologique, qui est évidemment de savoir, c'est peut-être saint Paul qui va entrer ici en grande partie en lieu, mais pas simplement lui, c'est sans doute, je dois essayer de dire quelques mots sur ce fameux problème des rapports avec la loi. Alors, il me semble que si l'on reprend un peu très schématiquement l'attitude du Nouveau Testament, puis progressivement du développement de l'Église, on trouve qu'il y a un mot commun qui est le mot « séparé pharisien » ou « sainteté ». Je suis très frappé que la racine soit la même. Hein. C'est-à-dire que quand les épîtres de Paul commencent toujours par dire « au saint », c'est-à-dire aux séparés, qui se trouvent, je ne sais pas, à Colosse, à Philippe ou ailleurs, à la limite, il aurait pu dire, étymologiquement, aux pharisiens qui se trouvent. C'est-à-dire être séparés par l'observance de cette sainteté de Dieu, qui n'est pas un au-delà métaphysique, qui est une exigence dans l'ici-bas, mais qui est séparée de l'ici-bas pour ne pas être confondue, je dirais, avec les forces obscures, avec les destinées de la terre. Il faut que Dieu soit saint comme Dieu est saint. Et en un certain sens, je crois que là, nous avons une attitude profondément commune et que nous avons une première compréhension de la loi, non pas du tout comme un tabou oppressif, mais comme l'expression de la sainteté de Dieu dans la pratique de nos vies. Qu'est-ce que c'est que la loi ? C'est pas d'abord un chemin de condamnation ou un chemin de, par conséquent, d'oppression de l'homme, mais c'est un chemin par lequel la liberté de l'homme est conservée par la sainteté de Dieu. C'est en pratiquant, si vous voulez, au fond, cette séparation telle que qu'est Dieu, que l'homme ne sera pas perdu, on pourrait dire, dans les confusions, dans les mélanges et finalement dans les errances du monde. Second point. Si la loi est sainte, Et sur le second point, on sera encore d'accord. Hein. C'est le troisième ou le quatrième que vont commencer les problèmes pour vous et pour moi, puisque nous sommes en procès là-dessus. Le second point, c'est que la loi est faite pour l'homme et pas l'homme pour la loi. C'est-à-dire, vous savez, les fameux passages qui sont bien connus, si quelqu'un est malade, si ton âne est tombé dans un puits le jour du sabbat, va le chercher. C'est-à-dire, l'idée que la loi n'est pas une espèce au fond, c'est pas la notion profane et taboue, c'est pas du tout une notion païenne de l'ordre de « si je fais ça, je vais être menacé par cela ». C'est un chemin de sanctification et ça n'est pas une espèce de tabou d'interdiction et par conséquent, je crois qu'on peut comprendre un bon nombre de passages de l'Évangile où on a le sentiment que Jésus vient transgresser la loi pour rappeler le but de la loi, que la loi est au service de l'homme et que l'homme n'est pas écrasé par la loi. Encore que naturel meurt, ça doit déjà poser problème, et ça l'est posé aux pharisiens, quand ils disaient, pourquoi est-ce que tes disciples, quand ils se promènent dans les champs, cueillent les épis, et qu'on citait la fameuse histoire, vous savez que j'ai toujours des références à l'Ancien Testament, que David l'avait fait quand il était poursuivi, pourquoi est-ce que tu guéris le jour du sabbat? C'est-à-dire qu'il y a eu cette sorte de sentiment que Jésus peut-être incitait les siens, et d'ailleurs en donnait l'exemple lui-même, de pratiquer ce que j'appellerais une transgression humaniste de la loi dont on n'est pas sûr qu'elle maintient la sainteté entière de la loi. Parce que vous savez, il y a le fameux moment où on peut se dire, mais finalement, si c'est mieux pour l'homme de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, on risque d'abolir complètement, au fond, l'exigence qui est dans la loi en vue de nos convenances à nous. Mais je crois quand même que sur ce second point, vous pourrez adhérer à l'idée par laquelle je présente Jésus, et finalement le christianisme, comme n'étant transgresseur de la loi que quand la loi serait, on pourrait dire, destructrice de l'homme, mais donc dans des cas limites, dans des cas d'exception, et pas du tout par une sorte de volonté d'abolition de la loi. Alors le troisième point est beaucoup plus compliqué. C'est qu'il me semble, là je reprends le grand schéma que l'on trouve surtout au début de l'épître aux Romains, Romains 1 et 2, qui me paraît la façon la plus commode de le présenter. Et d'ailleurs, je rappelle que qu'est-ce que c'est que la réforme? C'est en grande partie la reprise de Romains 1 et 2 à mes yeux. L'homme cherche le salut. Et dans l'épître aux Romains, Paul parle toujours de deux types d'hommes. Il parle des païens, qui n'ont pas reçu la loi, et qui ont, à la place de la loi, leur conscience, synaïdésis, la conscience, dont on parlera tout à l'heure, et qui par conséquent, pour lesquels la conscience est la loi. Ils sont sans loi, on pourrait dire de manière très théologique, ils ne connaissent pas le nom de Dieu, mais ils ont en eux-mêmes la conscience du bien et du mal, et c'est selon cette conscience qu'ils seront jugés. Il n'y a donc pas cette sorte de sentiment que, ou bien vous êtes juif, chrétien ou croyant, enfin quelque chose, ou bien vous vivez dans l'immoralité complète. Non, tout homme a au fond de lui une conscience qui lui permet de discerner entre le bien et le mal, c'est le premier type d'homme qui désigne donc les païens. Et puis vous avez le second type d'homme, qui a reçu donc la loi, et qui d'une certaine manière a les commandements de la loi, alors que les autres ont le discernement de leur conscience. Et peut-être que dans le commandement, il y a une extériorité plus précise, et il y a une sorte au fond de don, de relation personnelle plus forte, hein. À certains sens, je repense d'ailleurs, je crois que c'est dans Deutéronome 6, c'est un passage qui m'a toujours frappé, où il est dit, j'ai donné à chaque peuple le soleil, la lune, les étoiles, mais à toi, je t'ai fait connaître mon nom en propre. C'est pas, j'entends par loi la connaissance en propre de la volonté de Dieu. Et peut-être le plus spécifique de nous tous, c'est de penser que Dieu se manifeste en tant qu'absolu personnel, en tant que personne vivante, en tant que personne vivante et parlante, et c'est cela sans doute qu'exprime la loi. Il y a donc la conscience qui est le discernement moral à l'intérieur de chacun. Et il y a la loi qui est le commandement moral à l'intention de ceux qui connaissent le nom de Dieu en propre. C'est-à-dire pourquoi, quant à moi, je n'emploie jamais l'expression péché ou je n'emploie jamais l'expression grâce sans penser que je m'adresse à quelqu'un qui peut religieusement comprendre ce que ça veut dire. Sinon, je préfère parler de malheur, ou je préfère parler de chance, ou de bonheur, mais je réserve un peu ces deux mots-là pour une catégorie où il y a une relation propre entre l'homme et Dieu. Alors j'en arrive à mon grand propos, je reviens à Romains et 2. Paul, et je ne crois pas, mais ça sera le débat, vous savez que beaucoup pensent que Paul a été le fondateur du christianisme alors que Jésus était encore un parfait observant du judaïsme. C'est un fameux débat, ça, qu'on pourra voir à quel moment, c'était même l'idée de Nietzsche, mais enfin il n'est pas tellement arbitre entre nous à ce propos. Et Paul dit, ces deux chemins n'obtiennent pas le salut. C'est le grand problème. Enfin, n'obtiennent pas le salut. Et vous savez, les deux grandes démonstrations qu'il apporte, c'est premièrement, bien que chaque homme, bien que tous les païens, aient une conscience qui leur parle à l'intérieur d'eux-mêmes, ils ne font pas ce que leur dit leur conscience. Et c'est pourquoi d'ailleurs leur conscience devient divisée, leur conscience étant divisée ensuite devient égarée. Vous savez, c'est le fameux grand thème, ils ont confondu les choses visibles avec l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire les païens ont leur conscience comme guide, mais pas leur conscience comme rédemption. Ou ils ont leur conscience comme chemin, mais ils n'ont pas leur conscience comme porte. Ils ont leur conscience comme, on pourrait dire, indication, mais ils n'ont pas leur conscience comme libération. Et Paul dit ensuite, c'est là naturellement le problème, Paul dit ensuite, il en est de même de ceux qui sont liés à la loi. C'est le grand thème paulinien, ni par la conscience, ni par la loi, vous n'obtenez finalement la justification auprès de Dieu, parce que il faut faire les œuvres de la loi, mais la loi nous mène toujours, je ne sais pas si je parle de manière paulinienne, ou de manière augustinienne, ou de manière luthérienne, enfin, pour en discuter tout à l'heure, la loi nous mène toujours, risque toujours de nous mener à la double maladie de la loi, qui est d'un côté, pourrait dire l'orgueil, pourrait dire la propre justice selon laquelle je pense qu'au fond, j'emploie un mot qui peut-être ne vous est pas familier et nous en débattrons. Je pense que par mes mérites, dans la mesure où finalement j'observe cette loi, je reçois par ma justice cette reconnaissance que Dieu donne, puisque Dieu aime les justes, comme le dit d'ailleurs le psaume 19, le psaume 110 là-bas. C'est-à-dire, première voie, l'idée que je puis devenir juste en accomplissant les commandements qui sont requis dans la loi. Et Paul présente très souvent cette propre justice hein, comme étant, ou bien, alors on trouve peut-être la question tout à l'heure, comme étant soit une illusion sur soi-même, soit une ignorance du radicalisme de la loi. C'est peut-être la fameuse question, d'ailleurs toujours très difficile à entendre. Vous savez, quand il est dit dans Sermon sur la montagne, celui qui a regardé une femme avec convoitise a commis avec elle l'adultère dans son cœur. Qui n'a pas fait ça, hein? Ce fameux thème, au fond, par lequel la loi devient une sorte, au fond, d'entreprise impossible, non pas vous la perdre l'homme, mais vous la faire reconnaître à l'homme que ce n'est pas par l'observance de la loi qu'il pourra obtenir la rédemption qui lui vient de Dieu. Ou bien, second thème, si ce n'est pas, on pourrait dire, la propre justice, c'est le désespoir de la non-justice. C'est le grand thème qu'on trouve tout le temps. Ou bien la loi nous met dans l'illusion du bien, ou la loi nous met dans le désespoir du mal. Et donc, vous avez cette double aboutissement, la conscience est égarée, et la loi, finalement, n'ouvre pas le ciel ou n'ouvre pas la justice. Et donc, le grand thème, et naturellement, c'est là un grand débat pour nous, le grand thème, me semble-t-il, c'est de dire il faut être sauvé, pas par la loi, mais je dirais peut-être, si ce n'est pas trop paradoxal, il faut être sauvé pour accomplir la loi. C'est le grand thème, au fond, que je trouverai ici, c'est recevez d'abord la grâce, de telle manière qu'ayant reçu cette grâce, vous ayez à ce moment-là, comme une œuvre de reconnaissance et de liberté, la possibilité de demeurer dans cette grâce en accomplissant la loi. Et je suis très sensible, je ne sais pas ce que vous en penserez, au fait que le décalogue ait été donné après la libération d'Égypte. Ce n'est pas parce que vous observez le décalogue que vous allez être sorti d'Égypte. Mais c'est une fois que vous avez été libéré par la main forte et puissante de Dieu, bien que nous soyons, que vous soyez, que je sois un peuple à la nuque raide et au cou rebelle, hein, c'est-à-dire non pas mes mérites, mais ma nature, c'est parce que j'ai reçu cette grâce libératrice que maintenant le décalogue peut m'être donné, non pas comme une échelle inaccessible, mais comme un chemin offert. Voyez, le thème au fond que la loi n'est pas le moyen de la justice, mais que la loi est la conséquence de la justification. Alors là, naturellement, un gros débat, et c'est peut-être ici que se trouve le plus grand débat théologique. J'ai le sentiment que vous vous direz, mais alors, c'est l'abolition de la justice par une espèce, au fond, de tour de passe-passe de la justification. Et moi, je dirais, êtes-vous sûr que l'homme puisse acquérir la justice? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que veut dire la rédemption? Si la rédemption, c'est le couronnement de la justice que l'homme se donne à lui-même, qui est une sorte de reconnaissance, mais pas une rédemption. Donc, il y a là un problème, je crois, très important. Et puis, le dernier problème théologique, c'est sans doute, c'est le prolongement du raisonnement de Paul dans l'Épître aux Romains. Si le salut devant Dieu est fermé aux hommes de la conscience, comme il est fermé aux hommes de la loi, la justification qui vient de Dieu est donnée à tout homme, aussi bien aux hommes de la conscience qu'aux hommes de la loi. Et ce qu'on pourrait appeler, je n'aime pas l'expression universalisme, parce que pour moi le particularisme, c'est la chance. Enfin, je dirais l'universalisme, ça risque d'être la généralité. Mais si s'ouvre à partir de ce moment-là une sorte au fond de prédication généralisée, hein, c'est sans doute parce que ni la conscience, ni la loi ne sont finalement ce qui permet de donner la rédemption. Donc, la justification vient aux Grecs comme aux Juifs, à ceux qui sont sous la conscience comme à ceux qui sont sous la loi. Il y a une espèce, au fond, il y a une universalisation qui n'est pas un laxisme et qui n'est pas non plus une perte de la racine, mais qui est, maintenant, le salut est offert à tout le monde, puisque d'une certaine manière, il n'a été obtenu par personne, mais qu'il est maintenant offert à tous, aux hommes de la conscience comme aux hommes de la loi. En tout cas, pour terminer cette seconde partie théologique, je dirais que nous sommes réunis par cette idée de la sainteté séparatrice, mais nous sommes séparés par les modalités de la rédemption. C'est-à-dire, comment est-ce que cette rédemption, est-ce que cette rédemption arrive par l'observance de la loi, ou est-ce que cette rédemption arrive à ceux qui sont pécheurs et qui n'observent pas la loi, et est-ce qu'elle leur vient par la grâce? Et je rappelle un dernier thème paulinien que vous connaissez peut-être, et vous savez combien il y a eu des débats à ce moment-là, et qui gardent, à mon avis, toute leur portée actuelle. Le grand débat de l'Épître aux Galates, hein, consiste à dire Abraham est venu avant Moïse, 430 ans avant Moïse. Hein. C'est le fameux thème du débat, le fait que Moïse n'est pas premier, mais qu'Abraham est premier, veut dire que ce qui est premier, c'est l'élection gracieuse, et non pas, on pourrait dire, l'observance légale. Vient d'abord cette sorte, au fond, de cadeau immérité à ce païen adorateur de la lune qui croit et qui n'observe pas la loi, qui n'est pas celui qui, au fond, et c'est par sa foi et non pas par l'observance de la loi qu'Abraham est justifié, le grand thème sur la compréhension d'Abraham. Mais vient ensuite, naturellement, Moïse et la loi, sans abolition de la loi, mais avec un côté secondaire, si vous voulez, par rapport à la grâce et à l'élection première. Et je dirais encore deux autres exemples sur ce point, puis je passe à ma troisième et dernière partie. Il y a un texte dans le Nouveau Testament aussi, je le prends exprès puisque je parle parmi vous. Il y a un texte très curieux, d'ailleurs difficile à bien interpréter, selon lequel Jésus est grand prêtre, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, il marque non pas une sorte au fond de continuité sacerdotale ou généalogique, mais il marque une espèce d'unicité qui se réfère aux unicités antérieures par lesquelles s'est ouvert, au fond, le régime de la grâce, Melchisédek étant cette étrange figure qui est venue bénir Abraham, étrange figure, hein, et qui est souvent reprise comme étant une typologie, enfin en perspective chrétienne, comme étant une typologie de Jésus-Christ. Alors, je trouve très intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire, au fond, cette étrange figure, et quelle est la portée qu'elle peut avoir. J'ajouterai, mais ça c'est pour vous donner, je ne sais pas si j'ai raison de l'ajouter.